Et on continue à parler, nous, avant que ça démarre, avant qu'il y ait le jingle, on continue à parler parce que Louis de Montalembert est très obsédé par la dette, hein, c'est ça, c'est votre... Vous pensez que c'est ça qui va... Non, mais sérieusement, qui va driver, enfin, qui va peser...
C'est un problème qu'on ne pourra pas pousser devant nous éternellement. Et donc, on voit bien que dans les périodes historiques, quand il y a eu des dettes très importantes, on en est ressorti à l'inflation, c'est-à-dire à la croissance nominale, pour pouvoir réduire le stock
donc
de dette.
Donc vous, c'est la dette. Christopher Dembick, aujourd'hui, son obsession, c'est les matières premières.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, hein, ouais. Christian Bito, lui, c'est toujours la même. Pour l'instant, franchement, bravo.
Le rôle des banques centrales. Ça va devenir clé dans
les lunettes roses.
Les années à venir.
Et Valentine, c'est évidemment l'investissement dans la transition énergétique et le fait que l'inflation va rester assez élevée. Je vous propose là aussi de dézoomer. On ne regarde pas ce qui se passe en ce moment sur les marchés. On va se projeter 2024-2025, avec tous les événements qu'on a vécu, avec le niveau des taux d'intérêt, les bourses, il y a plein de gens qui disent, même si on a des corrections, c'est délirant, quoi. Moi, je croise des gens qui me disent, mais qu'est-ce que fout le CAC à ces niveaux-là, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt, et puis il y a des gens qui vous disent, vous avez rien compris. En fait, il faut regarder les valorisations, et puis quand on regarde les valorisations avec la croissance, on a des entreprises qui sont pas très chères, finalement. On assiste quand même aussi à une hyper-concentration. C'est-à-dire que derrière l'écran de fumée, des 20 valeurs qui tiennent, ou 10 valeurs qui tiennent le CAC 40, le luxe et le pétrole, derrière les 10% de valeurs qui tiennent le S&P 500, c'est un désastre, et c'est un désastre notamment sur les valeurs petites et moyennes. Dans le monde d'après, Louis de Montalembert, là vous allez pouvoir parler, dans le monde d'après, où doit se situer la bourse? Plus haut, plus bas?
Alors d'abord, je voudrais effectivement abonder dans ce que vous dites, c'est-à-dire que les indices ne sont pas représentatifs de l'économie. On ne peut pas faire une homothétie et dire...
Ni même de la bourse.
Alors, ni même de la bourse. Mais déjà en bourse, on a des entreprises qui ont un certain niveau de performance par rapport à l'économie. Je veux dire, il n'y a pas les boulangers, il n'y a pas les restaurants, etc. On a vraiment une concentration économique qui n'est pas une reproduction fidèle de l'économie. Donc, ça dépend effectivement de la qualité des entreprises dans lesquelles on investit. Et moi, je pense structurellement qu'on sera plus haut. Parce que historiquement, les actions ont démontré que c'était le meilleur actif sur le long terme. Donc, vous me donnez un petit peu de distance et non pas les 2-3 semaines.
Je vous donne le temps d'un règne.
Mais on est sur une grande mutation. On est sur une grande mutation économique et ça, il faut jamais minorer le fait que certaines entreprises vont tomber. Je veux dire, Kodak était une star quand on était jeune. BlackBerry a été formidable, etc. Donc, on est dans une mutation et par conséquent. Lorsque l'on investit, il faut se poser la question des changements économiques profonds qu'on est en train de traverser. On en parle sur la transition énergétique, sur la technologie. Et par conséquent, aujourd'hui, dans une logique d'investissement, ça n'est pas seulement la bourse va être plus haut, ça va être certains acteurs vont amener effectivement probablement les indices plus haut, et certains vont disparaître, vont se déliter, vont sortir.
Donc vous dites quoi ? Vous dites plus haut si on investit sur les secteurs qui vont bénéficier de toutes les transitions dont on a parlé.
Oui, je pense que là, il y a vraiment une question d'investir dans l'avenir. Là, je pense
donc
que...
les transition énergétique.
Ouais,
mais d'un autre côté, Christopher Dembick vous dit on investit en transition énergétique, mais on ne sait pas sur quoi on investit. Il y a la moitié des boîtes qui vont disparaître et il y a peut-être des technologies qui ne vont même pas résister.
Oui, donc je ne dis pas que c'est un exercice facile, il vaut mieux confier son argent à un professionnel.
D'accord, transition donc... technologique aussi, digital.
Ah, évidemment.
Évidemment, ça c'est celle sur laquelle vous êtes positionné.
Et là, je voudrais rebondir sur ce que disait Christopher tout à l'heure sur l'adoption de l'IA. En fait, l'IA est dans la tuyauterie. Je ne pense pas que les Européens ont tellement besoin de se soucier de savoir s'ils veulent adopter l'IA.
C'est comme l'Internet, quoi.
On l'utilise aujourd'hui, mais même dans des logiciels qu'on utilise, quand demain on aura Windows
Demain, Copilot, Word intégrera...
Windows Copilot, on utilisera l'intelligence artificielle. Donc on va tous bénéficier, peut-être pas des profits issus des sociétés qui ont créé l'intelligence artificielle, mais au moins des outils.
Quand vous regardez, vous mettez vos lunettes et vous regardez très loin.
Là,
il faudrait des
jumelles. Si on regarde à 10 ans, 20 ans, 30 ans...
Est-ce que vous avez des jumelles roses?
Je vais en fabriquer spécialement pour l'émission, parce qu'à 30 ans, pour le moment, la seule solution qu'on puisse dire, nous, avec le recul, en regardant tout ce qui s'est passé depuis plus d'un siècle, c'est que ce sont tout de même les actions qui permettent de faire mieux que l'inflation et de s'en sortir pour son patrimoine. Toutes les études le montrent.
C'est une rengaine, ça.
Les actions, bah oui, mais alors il faut attendre 10 ans, 20 ans.
C'est une rengaine, oui, d'accord.
Ans, mais vous l'avez cité, c'est tout de même ce qui marche.
Le mec qui dormait sur les actions de chemin de fer, à qui on a dit, bah, il faut garder ces actions-là pour la durée. Il peut s'allonger devant un train pour se faire découper.
C'est ce qui fait nos métiers. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de portefeuille.
Non, mais c'est ça, mais il faut le dire.
Parce que c'est pas aussi facile que ça.
Parce que ce que disent les gérants quand les gens vous écoutent, c'est prenez les actions et gardez-les. Ah ouais, d'accord. Le gars qui a des Kodak, le gars qui a des compagnies, qui a du Alcatel, qui a du. Bon, IBM, voilà. Encore.
Mais il faut gérer un tout petit peu tout de même. Il faut justifier notre position. Il faut même justifier la thématique.
Mais il faut le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement. Il faut acheter une action et la garder.
La composition des indices change.
Évidemment.
Et le deuxième point sur les thématiques, effectivement, qui sont les thématiques d'avenir.
Attendez, vous dites plus haut dans le monde d'après.
Oui, bien sûr, plus haut dans le monde d'après. Si on est d'accord sur une inflation qui va être de 2-3%, une croissance en termes réels, et on est assez ténu tout de même, de l'ordre de 2-3% de croissance réelle de l'activité économique, eh ben les bourses vont continuer à grimper, puisque de toute façon, les banques centrales sont là. Maintenant, on le sait, la Grèce, la faillite de Lehman Brothers, les problèmes de crédit suisse...
Elles sont là tant qu'il n'y a pas d'inflation.
Sont tout le temps là.
Quand
oui, mais c'est elles qui nous imposent de revenir vers ce 2-2,5% d'inflation.
Okay, donc...
Et donc maintenant, les banques centrales nous dirigent, très clairement.
Valentine, vous avez quelque chose
à dire? Oui, je pense que si on regarde le panorama... Si on regarde le panorama du monde d'après, ça veut dire qu'on va avoir, oui, un peu d'inflation. On a des besoins d'investissement qui sont énormes et on a des niveaux de dette qui sont élevés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de maintenir les taux réels. Les taux vont augmenter, mais maintenir les taux réels en taux, un territoire légèrement négatif. Et cet environnement est extrêmement positif pour les actions.
Donc vous êtes aussi très positif pour les actions dans le monde d'après.
Dans le monde d'après.
Oui, je parle pas.
Il peut y avoir
une correction de 20%.
Non, dans le monde d'après, c'est un environnement qui est positif pour les actifs risqués, oui. Si on maintient les taux réels en territoire légèrement négatif, oui.
Et est-ce qu'on va continuer, Christopher Dembick, sur cette hyper-concentration? Parce que moi, ce qui m'a frappé quand même depuis quelques années, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est winner takes all. Alors, il y a plein de gens qui grappillent autour et qui donnent des services et qui... Mm-hmm. Mais en fait, la création de richesse, c'est LVMH, c'est Apple, c'est Google, et le reste, c'est les miettes, quoi.
Il y a deux leçons qu'on peut tirer outre ce qui a été évoqué et que je rejoins. La première leçon, c'est tout simplement la purge du fait de la hausse du coût du capital. On le voit très bien, ça se passe à l'heure actuelle. Je ne vais pas endosser le rôle d'Eric Lewin, mais sur les small et les mid-cap...
Surtout pas, vous n'êtes pas assez bronzé pour ça.
Exactement.
Et vous n'avez pas de Berluti. Donc
non, je n'ai pas de Berluti, pas encore. Peut-être quand je serai plus âgé.
Ça casse.
Non.
Et quand vous aurez plus de cheveux, la balle au centre.
Voilà.
Je lui dirai,
ouais, en plus, il regarde l'émission, je pense.
Non, je pense pas. Il regarde que quand il passe.
Bon. Alors, donc, la purge sur les small et les mid-cap, elle va se produire. En revanche, vous allez avoir d'autres... Typiquement, les biotech, où vous avez eu pouvoir lever de l'argent de manière très aisée ces dernières années, on voit que ça devient compliqué. En revanche, il y aura quand même d'autres bulles. Et sur la transition écologique, je pense que ça va être très dur de savoir quels vont être les gagnants, quels sont ceux qui vont s'en sortir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez déstabilisé.
Non, mais la question que je vous pose, c'est cette hyperconcentration, est-ce qu'elle va continuer?
Oui, je pense qu'effectivement, il y aura encore cette hyperconcentration, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une incapacité à savoir ce qui va se passer, à se projeter en tant qu'investisseur sur du long terme. Alors bien sûr, je rejoins la vision, les marchés actions sont pertinents, mais je vais vous donner un exemple. Début d'année, qu'est-ce qu'on nous disait? Alors, vous aviez effectivement, on vous disait, la Chine, c'est la réouverture, il faut absolument aller sur les actions chinoises. Bah, les actions chinoises, si vous regardez...
Elles sont pris un pain depuis le 8 avril.
Et si vous convertissez sans l'effet taux de change, c'est encore pire. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va vers ce qui est le plus liquide, ce qui fonctionne aujourd'hui. Et typiquement, vous voyez, moi, quand je vois des clients, c'est pas très original. Je leur dis depuis le début d'année, le luxe, effectivement, ça fait partie. Si vous faites du stock picking, c'est intéressant. Ou vous allez sur l'ETF, etc.
Donc, 440. Il faut continuer là-dessus.
Il faut continuer sur ça. Ça sert à rien d'aller vers l'originalité quand on n'a pas d'éléments supplémentaires.
Justement, vous allez choisir un peu les pépites. On va parler de comment placer son argent, mais vous choisissez les pépites, notamment dans le cloud, c'est votre spécialité, une de vos spécialités, Louis de Montalembert. Mais vous voyez, quand on a vu par exemple l'intégration de l'IA dans Microsoft, le cours de Microsoft a pris 9%. On se dit, mais pourquoi s'emmerder à aller chercher une pépite dans l'IA dont on sait que 9 sur 10 vont se casser la figure, bah, on continue avec Microsoft, quoi.
Non, parce qu'en fait, et je voulais rebondir sur ce que disait Christopher tout à l'heure, c'est qu'on est dans une, dans les vagues d'innovation technologique, normalement, c'est des nouveaux entrants qui disruptent les anciens acteurs. Oui. Et là, on est dans une vague qui est totalement nouvelle, c'est que c'est effectivement les géants de la tech qui disruptent le secteur.
Mais aujourd'hui, pour disrupter, il faut être extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'en fait,
pas uniquement. Notamment dans la cybersécurité, vous avez des acteurs qui ont émergé ces dernières années de zéro quasiment. Hein. Je parlerai tout à l'heure de CrowdStrike, mais qui ont émergé de zéro en 3-4 années.
Qui valent combien ?
Qui ont déplacé, pardon ?
Qui valent combien aujourd'hui ?
27 milliards.
D'accord. Non, mais c'est énorme. Non, mais 27 milliards par rapport à 1000 ou 2000 milliards, c'est zéro.
Mais on est au début de l'histoire. Alors, je serai là pour vous dire qu'on est au début de l'histoire. Que Microsoft Defender, toute leur partie. Non, ils n'arrivent pas. Ils ont Microsoft Defender. Non, mais on a Snowflake qui est apparu de nulle part et qui disrupte AWS, Azure, etc. Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, d'abord, on est tous obnubilés par ChatGPT, mais il faut savoir qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent sur des modèles d'intelligence artificielle.
Y compris Google.
Et que derrière, OpenAI, d'abord, c'est pas que Microsoft. OpenAI et l'IP appartient à une association. Ouais. Et que derrière, ce qui est très intéressant sur toutes les entreprises sur lesquelles je travaille, c'est finalement ce qu'on appelle les API. C'est que on va prendre le modèle d'intelligence artificielle, on l'applique à un dataset. Mais même Airbus pourrait le faire. Airbus pourrait se dire, je prends évidemment l'ensemble de mes procédures.
Mais ils vont le faire.
Et je crée un dataset.
Ils vont le faire.
Je mets tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est dans la tuyauterie.
C'est ça.
Donc, oui, mais il faut pas être.
Oui, mais si c'est dans la tuyauterie, la valeur, elle est pas dans le tuyau. La valeur, elle est dans l'utilisateur du tuyau.
Non, la valeur, elle est dans les data, justement. Alors, elle est dans les data. Elle est beaucoup plus dans les data que dans l'outil.